Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes à l'Opéra Comédie, dans la loge 1 s'il vous plaît, voilà, en compagnie de Philippe Jarouski. Bonjour Philippe Jarouski.
Bonjour, la loge 1 d'ailleurs qui pour une fois n'est pas la loge du premier chanteur mais du chef.
Voilà, faut le préciser puisque vous pourriez être l'un ou l'autre selon le répertoire. Alors, vous allez avoir un concert Mozart, consacré à ce jeune prodige, cet adolescent prodige qui était Mozart, puisque c'est des œuvres de sa toute jeunesse que vous allez interpréter. Alors, pas tout petit, mais c'est un ado. C'est un ado.
Oui, il a
entre 14 et 16 ans.
Voilà, 14 et 16 ans. Hein. Et c'est le choix que j'ai fait parce que quand j'ai eu cette merveilleuse proposition de diriger l'Orchestre National de l'Opéra Comédie, qui est mon premier orchestre symphonique moderne. Donc demain, d'ailleurs, est la première répétition en face d'un orchestre symphonique. Donc c'est une étape importante pour moi, beaucoup d'émotions. Et j'ai tout de suite pensé à Mozart parce que j'ai toujours été frustré en tant que chanteur de ne pas pouvoir chanter assez Mozart. Quelques chefs m'avaient proposé le rôle de chérubin, par exemple, dans les noces, quand j'étais très jeune, et puis je ne l'ai pas fait. Il y a quelques rôles pour contre-ténor, notamment les rôles qu'il a écrits pour Castrat, que certains contre-ténors abordent brillamment maintenant, mais malheureusement pour moi, c'est peut-être un peu trop tard. Et puis, j'ai pensé au jeune Mozart, parce que, si vous voulez, ce Mozart, on est à peu près dans les années 1770, pour être précis, et on est dans le début de l'ère classique, mais on est aussi à la fin du baroque. Il faut savoir que ces deux styles sont en fait presque côtoyés. Et on est finalement à la fin du style galant. On est à la fin de l'âge d'or de l'opéra seria, avec des grands noms comme Jommelli, Traetta, Hasse, et puis les nouveaux compositeurs comme Jean-Christian Bach, qui ont une grande influence d'ailleurs sur le jeune Mozart. Et je me suis dit, c'est un parfait programme pour peut-être insuffler, je dirais, une touche de baroque dans l'interprétation, même si j'ai en face de moi un orchestre symphonique moderne.
Mmh. Oui, cela dit, d'autres ne se sont pas gênés pour mettre cette touche de baroque. Je pense à des William Christie qui ont vraiment joué le Requiem.
Mais bien sûr, bien sûr. Et les articulations sont parfois assez proche. Ce qui est frappant d'ailleurs dès le jeune Mozart, c'est l'écriture qui est même dans les symphonies, je dirais, extrêmement vocale. Et c'est peut-être pour ça que j'estime y avoir peut-être une légitimité. C'est un style que je connais quand même très 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 bien. Alors évidemment, l'orchestration devient un petit peu plus riche que dans l'opéra baroque, mais pas de beaucoup. On a des trompettes, des cordes, des hautbois. On n'a pas encore de clarinette, d'ailleurs, à l'époque du jeune Mozart. Et ce qui me permet quand même d'aborder ce répertoire sans être submergé, notamment par l'orchestration. Et j'ai été très, très, très inspiré par le travail. Parce qu'évidemment, le travail d'un chanteur, il se fait à la table, mais le travail du chef d'orchestre se fait encore plus à la table, avec cette écoute intérieure qu'on doit développer. Une écoute de chaque partie, savoir qu'est-ce qui est important de souligner. Je suis sûr qu'il y aura plein d'idées qui me viendront probablement en répétition, mais déjà préparer les répétitions. Et j'ai adoré passer ces quelques semaines déjà avec le jeune Mozart, parce que finalement, être chef d'orchestre, c'est encore plus qu'un chanteur, c'est de rentrer dans le cerveau d'un compositeur, d'essayer de comprendre pourquoi il écrit ça à tel moment, pourquoi il a développé de telle façon. Plus ça va, plus je vais de surprise en surprise, et je me rends compte que même si évidemment on n'a pas le Mozart de Don Giovanni ou de Così fan tutte, tout est là déjà, c'est-à-dire dans la plasticité du cerveau, cette capacité à partir de trois notes de développer tout un morceau, de moduler, d'orchestrer, de s'amuser déjà, de rendre cette musique si vivante. C'est très impressionnant pour un gamin, je dirais presque un sale gosse de 15 ans, parce qu'il est très énervant, je dirais. Quand on le lit, on se dit « mais c'est pas possible ».
Oui, et puis ce qu'on voit dans le film de Miloš Forman et la pièce de Peter Schaeffer, on se dit il exagère, il en fait trop. Non, mais quand on lit la correspondance avec sa cousine Nannerl, notamment, non, il n'en fait pas trop.
Non, il n'en fait pas trop. Et je dirais, moi, je trouve que c'est formidable. On va passer une semaine, justement, en compagnie du jeune Mozart. D'un Mozart qui peut-être, effectivement, je dirais, de manière un peu moderne, se la pète un peu. C'est-à-dire qu'il est tellement doué, il est tellement génial, que pour lui, écrire une symphonie, c'est comme écrire une lettre. Donc, il s'amuse. Il n'a peut-être pas... peut-être encore la pression d'écrire des chefs-d'œuvre, vous voyez, il n'est pas encore dans une sorte d'introspection de ce qu'il veut vraiment écrire, il est juste dans la jubilation de pouvoir écrire. Et on le sent parfaitement, j'espère pouvoir communiquer ça au public. Et puis effectivement, notamment dans cet opéra Mithridate, qui est un opéra absolument incroyable, qui a balayé d'un trait... tous les vieux maîtres à sa création à Milan, il s'amuse terriblement et il montre un peu ce qu'il sait faire. Et ça me fait penser d'ailleurs à cette fameuse phrase dans Amadeus où, à la fin d'une représentation, quelqu'un lui dit qu'il y a trop de notes. et effectivement, on a déjà ça dans le jeune Mozart.
Oui, il y a trop de notes. Bon. C'est un point de vue. Je ne sais pas s'il peut se défendre, mais bon. Mais alors, vous le disiez là un petit peu, on voit en quoi celui qu'on on a mis tous les qualificatifs à Mozart, le divin Mozart, le ceci, le cela. Bon. Qu'est-ce qu'il avait de si différent? Parce que, est-ce que c'est les contemporains, nous, qui avons raison dans l'évaluation de l'œuvre de Mozart? Des contemporains, oui, bon, c'est pas mal, mais il y en a d'autres qui sont aussi connus, et puis, à sa mort, tout le monde, le récit de sa mort est bien connu. Bon, oui. Peut-être, parce qu'il était à Vienne, il aurait été à Prague, je pense que ce serait passé autrement. Mais il disparaît presque dans l'oubli, quoi. Qu'est-ce qu'il a, avec le recul, et vous qui êtes musicien, vous êtes dans les partitions, qu'est-ce qu'il a de si différent, à part peut-être qu'il était précoce, que les autres compositeurs de l'époque?
Alors, je crois qu'il a étudié, comme tous les grands compositeurs de l'époque, je dirais qu'il a étudié le style ancien, c'est-à-dire la fugue, le contrepoint. Et il a évidemment travaillé le clavecin. Il a également énormément travaillé, et ça, je pense que c'est la clé des très grands compositeurs, l'improvisation. Quelqu'un, vous lui donnez un thème, il va vous écrire une fugue ou une pièce de forme sonate. Cette plasticité du cerveau très très jeune. On sait aussi qu'il joue du violon, qu'il joue du piano. Enfin, il a joué plusieurs instruments également. Il connaît très bien la voix également. Ça, c'est très très impressionnant. Il sait exactement quoi écrire à un chanteur très tôt, parce qu'il a entendu tous les grands chanteuses et tous les grands castrats de l'époque. Hein, il aimait beaucoup les castrats. Et on entend ça. Je dirais que dans cette première période, on entend tout ça, c'est-à-dire cette fulgurance. On n'entend pas encore le Mozart, je dirais, qui s'émancipe de la coupe de son père, Léopold. On n'a pas le Mozart qui se dit « j'ai envie de dire quelque chose d'autre », comme il le fera plus tard dans les opéras en collaboration avec Da Ponte ou certains concertos pour piano ou certaines symphonies. Là, on a ce Mozart qui ne se pose pas toutes ces questions-là et qui montre qu'il connaît parfaitement les codes de l'époque, je dirais. On n'a pas encore un Mozart qui va... même, je dirais, il y a certains moments où il tente des nouvelles idées, mais c'est un peu pompeux. C'est-à-dire qu'il se cherche quand même déjà, mais... on a une démonstration un petit peu prétentieuse, je dirais, mais
un peu m'as-tu vu, on pourrait
un
dire
peu m'as-tu vu, mais ça n'empêche pas que cette musique du coup est très agréable à écouter puisque elle est très vivante, mais c'est vrai qu'on n'a pas le Mozart qui va tomber amoureux, va avoir plein de problèmes dans sa vie et qui va transmettre tout ça dans sa musique. Oui, là, on a quelque chose de beaucoup plus joyeux.
Est-ce que vous seriez d'accord de dire que on n'a pas encore la dimension dramatique de l'œuvre de Mozart? On est dans les opéras sérielles. Là, on va arriver après, à travers les concertos pour piano notamment, et à travers les grands opéras. Après, on va dire, après l'enlèvement au sérail, où ben là, c'est le drame qui arrive et qui annonce, qui ouvre, commence à ouvrir les portes du romantisme.
Exactement. Mais très tôt, le jeune Mozart aussi s'entraînent. Alors, comment ils s'entraînent sur l'opéra ? Comme beaucoup de compositeurs le faisaient à l'époque, là, le programme va présenter quatre grands airs, un air de Mithridate, un air de Lucio Silla et deux airs de concert qu'il a écrit très jeune sur des grands textes de Métastase, qui est évidemment le librettiste de l'opéra seria. Et du coup, il va prendre des textes qui ont été énormément mis en musique et il va expérimenter, ressentir le texte et proposer une version. Donc c'est ce qu'on va entendre aussi dans ces deux airs de concert. Il se forge à la dramaturgie, je dirais, de l'opéra seria. Il essaye de s'y frotter avec évidemment une grande habileté, parfois pas forcément une économie de moyens qu'on va retrouver évidemment dans l'épure de grands airs mozartiens comme, je sais pas moi, le Voi che sapete ou la Scidalem la mano, des choses
le
comme
Voi
ça.
Le Voi che sapete, rappelons l'air de Chérubin dont vous parliez tout à l'heure, qui est un morceau d'anthologie à lui tout seul.
Voilà, là on est sur un répertoire où chaque chanteur exploite du grave au suraigu, ce qui est vraiment la caractéristique du baroque tardif, je dirais.
Alors, dans le programme, donc on a des extraits d'opéra, des airs de concert. Il en a écrit toute sa vie, même dans les derniers numéros de Köchel, on a encore des airs de concert qui arrivent à l'époque de Cossi, et puis voire de la Clémence de Titus. Et là, il y a aussi des symphonies. Alors, surprise, tout le monde connaît, bon, Mozart, il y a 45, d'accord, 42... 46, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, qu'est-ce que c'est que ces symphonies-là ?
Alors, ce sont des symphonies écrites en même temps que les airs, dans les années 70, à Rome, à Salzbourg, et ce sont des symphonies de jeunesse. Et comme on ne les a pas vraiment mis dans le catalogue au début, on les a numérotées, finalement, comme la symphonie numéro 1 avait déjà été numérotée, on les a numérotées après les symphonies existantes. D'accord. Donc, je trouve ça amusant, d'ailleurs, je pense que ça va amuser beaucoup d'auditeurs et une partie du public d'écouter la symphonie numéro 46 qui, il faut le dire, est très belle mais quand même moins achevée que la Jupiter quand même. Elles sont toutes les deux en do majeur, donc
Oui, d'accord, c'est un problème de numéro de catalogue. Monsieur Köchel avait épuisé les numéros, donc il fallait bien en rajouter d'autres.
Alors, l'idée, effectivement, c'est de... J'avais pas envie non plus de me frotter aux grandes symphonies mozartiennes dès le départ. Je voulais vraiment partir de la base parce que j'ai envie de continuer à diriger Mozart dans le futur. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser cette première expérience pour partir du début, et de voir comment l'esprit mozartien se forge symphonie par symphonie, qu'est-ce qu'il teste, qu'est-ce qu'il change. À l'époque, dans les années 70, une symphonie, c'est pas exactement comme on l'entend, je dirais, 10, 15 ans après. Donc on a des symphonies qui sont assez courtes, on va dire entre 12 et 15 minutes, avec 4 mouvements, mais on a déjà, par exemple, le menuet avec le trio, qui est vraiment typique de la symphonie classique, mais on a souvent un premier mouvement qui est finalement étonnamment court par rapport effectivement au mouvement dit de forme sonate qu'on va voir se développer très vite après. Donc ça permet, moi, de diriger, je dirais, une symphonie sans me sentir peut-être submergé par la durée et le challenge. Donc je commence avec beaucoup d'humilité. Et je dois dire qu'on en parlait avec ma claveciniste que j'ai apportée avec moi, Yoko Nakamura, puisque je trouve que cette époque, on peut encore mettre du clavecin dans l'orchestre. Et elle me disait, c'est pas un programme facile, en fait, parce que, dans le Mozart plus tardif, je dirais que tout est si bien écrit que si on fait déjà ce qu'il y a écrit, c'est magnifique. Là, il faut aller insuffler un petit peu des idées supplémentaires pour... redonner un peu de piment et voilà, donc c'est pas un programme si facile, le jeune Mozart, je dirais.